Des jours plus tard, face au canon d'un pistolet, le visage éclaboussé de sang, Ahura Reyes se rappellera ce moment, dans cette cellule 11B du palais de justice de la place de Castilla, à Madrid, comme celui où elle a commis la pire erreur de sa vie. Pour l'instant, évidemment, elle ignore qu'elle est sur le point de la commettre. En réalité, elle est même incapable de penser à quoi que ce soit. Le froid, la faim et la peur ont vaincu toute pensée rationnelle. Elle grelotte sous son chemisier trop léger. La surveillante a confisqué son manteau, ainsi que tout ce qui pourrait lui permettre de se suicider. La semaine dernière, on en a un qui s'est pendu avec son t-shirt. Il l'avait d'abord mouillé pour qu'il ne se déchire pas. Elle crève de faim, parce qu'elle n'a rien avalé depuis plus de 12 heures. La surveillante lui a glissé un paquet de biscuits Maria dans sa poche avec l'air de dire « c'est notre petit secret ». Les sandwichs n'arrivent pas avant 20 heures. Le dimanche, c'est toujours Chistorra. Elle est morte de peur. C'est sa première nuit derrière les barreaux. La première d'une longue série, se dit-elle en secouant la tête. La cellule fait moins de 12 mètres carrés. Les murs sont peints de 2 couleurs, comme le couloir. Mais ici, on peut voir l'expression de la créativité et du désœuvrement des prisonniers. Et la décoration est complétée par des graffitis des plus raffinés, des pénis, des croix gammées de différentes tailles et de couleurs variées, des crânes, les as de la déco. Certains sont gravés avec les ongles dans le plâtre, d'autres brûlés avec un briquet ou bien tracés au stylo bille avec une patience injustifiée. L'air est dense, avec un relent de sueur et d'autres choses qu'Aura ne peut nommer. Le mobilier est assorti à la clientèle, un blanc filant en béton collé au mur de la cellule. Dans un coin, des toilettes en inox. Sans luxe superflu, tels que des portes ou du papier hygiénique. En les voyant, Ahura se rend compte qu'elle a besoin de les utiliser, avec une certaine urgence. Or, la situation n'est guère favorable. 3 femmes forment un cercle devant une 4e, qui utilise nonchalamment les installations, sa culotte aux chevilles. Le quatuor rit et échange des plaisanteries. Ahura renonce pour l'instant. Elle cherche un endroit où s'asseoir pour manger tranquillement ses biscuits. Ce n'est pas évident. Les 4 Sud-Américaines occupent le mur de gauche. Le fond de la cellule n'est pas une option non plus. Debout sur le banc, 2 autres femmes crient vers un rectangle en métal perforé vissé près du plafond. Ahura ne reconnaît pas la langue. De l'autre côté du rectangle, on entend des voix et le bruit étouffé de la circulation. Ahura en déduit qu'il s'agit d'un soupirail donnant sur la rue. « Hé toi, viens là avec nous, ma jolie !» l'appelle la fille assise sur les toilettes. « Yoni est constipée, elle a besoin de compagnie !» explique une autre dans un éclat de rire. Ahura n'a jamais vu un toxicomane de sa vie. Mais ces 3-là lui donnent un bon aperçu. Les yeux rouges, le visage ravagé, la sueur, les mouvements brusques, la langue bien pendue, les fous rires. Elle leur fait un signe qu'elle voudrait respectueux et se dirige vers l'autre bout de la cellule. Hey, « Hé, Miss Monde, tu vas où ?»« Elle veut pas t'aider, Yoni !» Le mur de droite est plus dégagé. Il n'y a qu'une masse de bonne dimension allongée sur le banc en béton. Le néon qui devait éclairer ce coin-là a grillé, et celui du côté opposé vit ses derniers instants. Ahura n'a pas besoin de lumière pour reconnaître sa copassagère. Même avec la tête sous la veste ensergée, on ne la lui a pas confisquée, Ahura se demande pourquoi, ses ronflements sont reconnaissables entre tous. Ahura s'assied à côté d'elle, dans le petit espace restant entre les pieds de la femme et le mur de la cellule. Le plus près possible de la sortie, pour tarder le moins possible quand on l'appellera. Elle ouvre le paquet de biscuits qu'elle tient collé contre sa poitrine et commence à manger lentement, la tête baissée, en pensant à ses filles. Ahura a toujours eu une imagination débordante, fruit de sa passion immodérée pour la lecture, ce qui, jusqu'à présent, lui était apparu comme un atout. Jusqu'à présent. Parce que, soudain, elle ne parvient à penser qu'à toutes les choses qui pourraient arriver à ses filles, qui sont curieuses, turbulentes et têtes en l'air. Elle tente de se rappeler ce qui reste à manger à la maison. Des choses faciles à préparer, qui ne demanderaient aucun effort, et surtout, qui ne nécessiteraient pas d'allumer les plaques, ou pire, le four. Elle vérifie mentalement le contenu du frigo, presque vide, et du placard, plein de toiles d'araignée. La seule chose dont elle puisse se souvenir, c'est ce qu'il y avait pour le dîner. Cette pizza aux épinards dont elle raffole, celle du docteur je ne sais quoi, et bien sûr elle les visualise. Allumant le four, comme elles ont vu maman le faire 1000 fois. Et celui-là n'est pas comme celui de chez nous, qui n'est plus chez nous. Celui-là n'a pas de jolis panneaux tactiles colorés, avec des instructions claires, des recettes et une fonction d'extinction automatique, non. Celui de chez sa mère, désormais chez nous, est un balai blanc du siècle dernier, avec des boutons effacés par l'usure. Il est très facile d'allumer le grill au lieu de la chaleur tournante et le minuteur oublié. Il a cessé de fonctionner avant la chute des tours jumelles. Vous tournez le bouton, vous entendez le désagréable tic-tac et vous n'avez plus qu'à vous asseoir et à attendre. Elle imagine la pizza qui fume, le four qui prend feu, les filles qui essayent d'éteindre l'incendie à main nue. Elle imagine des brûlures au 3e degré et aucun moyen d'appeler les pompiers. Parce qu'elles sont trop petites pour avoir un portable et qu'il a fallu renoncer à la ligne fixe des mois plus tôt, en même temps qu'aux friandises, à HBO et à 1 000 000 d'autres choses qui rendaient la vie plus supportable et qu'elle tenait pour acquise. « Hé, Miss Monde, hé !» Aura s'extrait de son cauchemar et lève la tête. Devant elle, la fille des toilettes. « Qu'est-ce que tu manges, Miss Monde ?» Aura baisse la main qui tient le paquet de biscuits, maintenant à moitié vide, et évalue ses possibilités. Dans un film, la réponse serait évidente. Casser la gueule à la fille, lui faire bien comprendre qu'on ne déconne pas avec elle, etc. S'imposer. Mais ce n'est pas un film. C'est la vraie vie. Elle jette un coup d'œil à Yoni. Pantalon en cuir étriqué, t-shirt moulant, poitrine énorme. Même si Aura la dépasse d'une tête, l'autre pèse 15 kilos de plus qu'elle. Et elle a 3 autres filles derrière elle qui ne perdent pas une miette de la scène. Donc elle choisit la seule chose qu'elle peut faire. Elle lui tend le paquet de gâteaux, sans rien dire. Yoni lui adresse un sourire carnassier et se jette sur les biscuits. Elle se les fourre par 3 dans la bouche et en laisse tomber la moitié. Aura a l'impression d'avoir à nouveau 7 ans et de se trouver devant un épisode de Un rue Sésame. À part que Macaron le glouton a les cheveux noirs et crêpés au lieu de bleus. Aura sait que Yoni n'a pas faim, qu'elle a mangé les biscuits simplement parce qu'elle pouvait se le permettre. La fille balance l'emballage plastique par terre, rote avec satisfaction et retourne avec ses copines qui l'accueillent avec de grands éclats de rire. Aura ferme les yeux pour chasser l'humiliation et essayer de dormir, mais c'est impossible. Son cerveau tourne trop vite. Même quand l'unique lampe s'éteint, une demi-heure plus tard, elle ne parvient qu'à entrer dans un état fébrile de demi-sommeil dont le silence l'attire. Les femmes qui braillaient dans le soupirail se sont tues, enfin. Les autres aussi. La pénombre accroît la tristesse de sa situation, la met en évidence. La seule lumière qui pénètre dans la cellule s'infiltre par un grillage sous la porte. Sans rien avoir, Aura se concentre sur ses autres sens, le froid de la cellule, l'odeur mélange d'urine, d'humidité, de pieds nus, la respiration des détenus, le bruit des corps qui s'agitent dans le noir, cherchant une position moins inconfortable. Si le désespoir représentait une chose tangible, il serait sûrement fait du lourd sentiment qui enveloppe le cœur d'Aura à cet instant. Non, Aura ne dort pas. C'est pourquoi lorsqu'il y a du mouvement dans l'ombre, à l'autre bout de la cellule, elle s'en rend compte avant tout le monde, elle le perçoit dans ses tripes. Elle a déjà eu une sensation semblable des années plus tôt. Une intuition qui s'était terminée par le meurtre de son mari et elle-même se vidant de son sang devant la chambre de ses filles. Cette fois-là, elle avait réagi tardivement et mal. Comme une bourgeoise des beaux quartiers, qui croyait que les monstres vivaient au-delà d'un épais rideau infranchissable, tissé d'argent et de démocratie. Le rideau s'est révélé plein de trous.